Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour la partie culture de l'émission avec l'écrivain Guillaume Musso pour la sortie aujourd'hui de son nouveau récit La vie est un roman. Ce sera juste après le journal de la culture Nos Indispensables, un livre en compétition pour le prix Europe 1 GMF et des idées de recettes faciles à faire pour emporter au bureau et réalisables en moins de 30 minutes en fin d'émission, le portrait inattendu de Cadmerade. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. J'ai marqué un petit temps comme vous.
Voilà, le portrait inattendu de Cadmerade, ce sera évidemment fait par vous. Mais d'abord, c'est votre journal de la culture, Hélène. Journal qui débute avec une belle initiative lancée par le violoncelliste Gauthier Capuçon.
Un peu de douceur pour commencer avec sa reprise de l'hymne à l'amour d'Édith Piaf. Gauthier Capuçon a décidé d'offrir un hymne pour la culture. Après avoir été très présent sur les réseaux sociaux pendant le confinement, il lance un été en France. Le principe, partir avec son violoncelle sur les routes de France pour jouer dès qu'on l'invitera. Ça peut être partout, place de village, dans un champ, devant un monument. Il démarrera cette tournée atypique dès qu'on l'appellera. Il partira en voiture avec sa femme et ses deux filles. Il aura besoin uniquement d'une prise électrique pour brancher ses deux enceintes et d'une tablette où il aura enregistré la partie piano de Jérôme Ducrot. Concert surprise donc, à tout moment, et concert gratuit pour le public. Si Gauthier Capuçon a eu cette idée, c'est pour un retour aux sources. Lui qui est habitué aux grandes tournées calées des mois à l'avance, il souhaite surtout renforcer le lien avec le public qu'il a pu créer pendant le confinement. Deux mots d'ordre, Philippe, proximité et simplicité.
J'adore cette idée. On va partir du côté du Cirque du Soleil. Le cirque peut être racheté par son fondateur.
Alors ça mérite quelques explications. Le Cirque du Soleil a été obligé d'annuler 44 représentations dans le monde entier suite à la pandémie. Aujourd'hui, 95% du personnel est au chômage partiel, soit 4679 employés. Ah oui. L'institution québécoise se retrouve donc dans d'importantes difficultés. La dette est estimée à 900 millions de dollars. Guy Laliberté, le fondateur du Cirque du Soleil, a vendu l'essentiel de ses parts en 2015. Il a annoncé qu'il souhaitait racheter l'entreprise qu'il a donc lui-même créée en 1984. Il ne supporte pas de voir le Cirque du Soleil dans cette situation. D'autres sont également intéressés par le rachat. Guy Laliberté souhaite garder le siège social à Montréal et conserver l'équipe de direction québécoise.
On file en France, c'est le grand jour pour le groupe Indochine.
Nous savions qu'Indochine était en train de préparer quelque chose.
J'ai l'impression que je suis avec des dentistes qui dansent. Il y a Jérémy et Louise, ils ont des masques blancs sur la tête et ils se déhanchent comme des gars en fin de soirée qui ont un peu trop terminé toutes les bouteilles.
C'est pas juste, je vous vois pas moi.
Je vous ferai une vidéo. Mais ils ont la choré à fond.
Merci Philippe, c'était vachement bien. Alors, en tout cas, ils vont continuer parce que nous savions qu'Indochine était en train de préparer quelque chose, surtout cette année pour les 40 ans du groupe. Il y a 15 jours, ils ont publié un Save the Date, soit la date à retenir. Ouais. C'était celle du 26 mai. Donc aujourd'hui, à midi, ils vont annoncer quelque chose en rapport avec leurs 40 ans de carrière. Sûrement, les fans évoquent un nouvel album, une nouvelle tournée ou juste un nouveau concert, enfin avec une grande fête où Louise et Jérémy pourront danser. Le suspense est intenable. Réponse dans 2 heures. Indochine qui sera en live ce soir chez nos confrères de Quotidien sur TMC.
Et puis on continue ce journal avec, attention, humour, Palm Dog.
Vous avez reconnu la musique du film The Artist. Eh bien, figurez-vous que Huggy, le Jack Russell du film, est devenu, à titre posthume, le meilleur interprète canin des 20 dernières années. La palme des Palm Dog.
Ah,
un prix remis pendant le Festival de Cannes, donc annulé cette année. La cérémonie s'est tenue sur l'application Zoom. C'était Dash qui était présent, la doublure de Guy, puisque Guy est mort il y a 5 ans.
Et puis on termine ce journal, Hélène, avec de la musique, un duo qui a été votre coup de cœur.
Oui, c'est bien de partager ses coups de cœur. Âme romantique, vous allez adorer. Âme romantique, née dans les années 90, encore plus. Il s'agit d'un duo entre la chanteuse Pomme et le groupe Kyo. Ils reprennent ensemble le titre phare de Kyo, Dernière danse.
Mourir demain, ça ne change rien. J'ai reçu de ses mains le bonheur ancré dans mon âme. C'est même trop pour un seul homme. Je l'ai vu partir sans rien dire. Il fallait seulement qu'aspirer à merci d'avoir enchanté.
Pomme aimait beaucoup reprendre cette chanson toute seule lors de passages télé ou radio. Ouais. On se quitte avec un peu d'amour, Philippe, ouais, aujourd'hui.
Mais attendez, vous passez ce disque parce que vous l'aimez bien ?
Bah, je trouve que c'est beau.
Demain, j'amènerai mes vieilles cassettes.
Pas du tout.
Mais pas du tout. Est-ce que c'est mon genre de me moquer ? Demain, j'amènerai mes vieilles cassettes.
Eh bien oui, justement, Philippe, il est temps de le dire.
Merci Hélène, à demain.
Merci Céline.
Dans un instant, c'est Guillaume Musso qui nous rejoint dans Culture Média. En attendant, musique encore. Avec ce groupe qui a fait le buzz pendant le confinement, avec plus de 4 millions de vues, on écoute T'as voulu voir le salon, c'est les Goguettes sur Europe 1.
T'as voulu voir le salon et on a vu le salon. T'as voulu voir la chambre et on a vu la chambre. T'as voulu voir le placard et on a vu le placard. T'as voulu voir la fenêtre et on a vu la fenêtre. T'as voulu voir les chiottes et on a vu les chiottes. J'ai voulu voir le balcon, on n'avait pas de balcon. Ouais, c'est con. J'ai voulu voir Arte, j'ai vu Christophe Barbier. J'ai voulu voir Romer, j'ai vu Bruno Le Maire. J'ai voulu voir Twitter, j'y suis resté 8 heures. Pour ou contre Raoult, je sais plus trop, j'avoue. Est-ce qu'Olivier Véran vaut mieux qu'Agnès Buzyn? Et Benjamin Griveaux dans tout ça, qu'est-ce qu'il tient? Je me demande bien. On a vu Macron. Maintenant tout est plus clair, on sait ce qu'il faut faire. Pour pas se contaminer, il faut se confiner. Mais pour se déconfiner, faut être immunisé. Pour être immunisé, faut se faire contaminer. Pour se faire contaminer, faut se déconfiner. C'est QFD. T'as voulu mettre un masque, et ben y avait pas de masque. Mais je peux t'en faire un vase de sopalin. J'ai voulu truc de ouf, aller acheter de la bouffe. Mais juste au coin de la rue, un flic m'est tombé dessus. J'avais pas marqué l'heure sur mon attestation. J'avais une mode de beurre, d'écouter tant de pognon. Inflation. Mes places du Panthéon, on a vu des canards, si c'est pas mignon. Et en plus, c'est bon, rôti. Alors, à ce qui paraît, faut tenir jusqu'au 11 mai. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tout ce temps offert? On a déjà tué le chat, ligoté les enfants, dénoncé le voisin qui va voir ses parents dans un EHPAD pourri du côté de Charenton, vivement que ce soit fini, qu'on se confine en prison pour de bon. Oh, mais Macron a dit hey, hey, l'ancien monde, c'est fini. Septembre prochain, s'il continue comme ça, on le verra avec un joint à la fête de l'humain. À 20h, il faut se mettre à gueuler à la fenêtre pour soutenir les soignants en galère d'équipement. C'est les mêmes l'an passé qui se faisaient tabasser par la marée chaussée pour avoir du budget. Maintenant, c'est des héros, moi je leur tire mon chapeau. Si avec tout ça, ils tiennent pas un peu schizophrènes, pourvu qu'ils tiennent, qu'on s'en souvienne.
C'était les Goguettes sur Europe 1 avec T'as voulu voir le salon, leur titre parodique et humoristique. Ça a tellement bien marché, Philippe, pendant le confinement, ce titre. Figurez-vous qu'ils seront en tournée en 2021, qui passeront même par la Cigale le 10 juin 2021. Enfin, on leur souhaite en tout cas une belle tournée aux Goguettes qu'on vient d'écouter sur Europe 1.
Europe 1.
Dans un instant, c'est Guillaume Musso qui nous rejoint. C'est dans Culture Média et c'est sur Europe 1. Belle matinée à tous.
Heure, 11h,
Europe 1, Culture Média,
Philippe Vandel.
Et dans Culture Média, Philippe, on est ravis d'accueillir Guillaume Musso.
Bonjour Guillaume Musso.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous êtes romancier, vous avez vendu plus de 32 millions de livres, c'est le dernier chiffre que j'ai, c'est le même chiffre que vous avez ?
Je ne sais pas du tout en fait.
Bon, dans le journal, il y a écrit 32, traduit en 40 langues. Depuis 10 ans, vous êtes l'auteur français le plus lu. Vous avez détrôné Marc Lévy, je vais citer, et après, qui est devenu un film avec John Malkovich et Romain Duris. Sauve-moi, L'appel de l'ange, Central Park, et le dernier sorti l'an passé, La vie secrète des écrivains. Mais également, une étude montre que vous avez été l'auteur, Guillaume Musso, le plus lu pendant le confinement. Et ça y est, les librairies sont ouvertes et vous publiez aujourd'hui La vie est un roman chez Kalman Levy. Alors c'est un roman avec des tiroirs, avec plusieurs niveaux de lecture. Mais d'abord, il faut raconter l'histoire de base. Ça commence avec une romancière américaine, elle s'appelle Flora Conway. C'est une star de l'édition, elle habite seule avec sa petite fille de 3 ans. Elle joue à cache-cache dans son appartement new-yorkais. Et là
D'un seul coup, elle ne retrouve plus sa fille. Et pourtant, la porte est fermée, les fenêtres sont soudées. Elle cherche. Elle appelle la police. La police désosse l'appartement sans trouver la petite fille. Et j'ai voulu partir comme ça, donc sur une sorte de mystère de la chambre jaune, ouais. Version 2020. Alors, c'est une idée qui m'est venue d'ailleurs en jouant à cache-cache avec mes enfants. Je me suis aperçu qu'un jour, en fait, ils étaient suffisamment malins pour se cacher dans des endroits où on les trouvait plus, et j'avais de moins en moins envie de jouer avec eux, parce que ça, j'avais toujours l'angoisse de ne pas les retrouver ou qui se cache dans un endroit dangereux.
Ouais, moi, des fois, ça m'arrive avec mon chat et il revient le lendemain. Il est tranquillou. C'est bah comme oui. Si c'était rien passé. Alors, en plus, il y a une caméra de surveillance qui filme l'entrée de l'immeuble. On voit ni entrée ni sortie. Pourquoi c'est très intéressant ? Parce que la petite fille de cette romancière a disparu et donc la romancière est accusée de l'avoir assassinée et de maquiller tout ça un assassinat en disparition. Il y a une éditrice. Alors, pourquoi c'est un roman à tiroir qui joue un rôle très trouble. Elle lui offre un très beau cadeau, un stylo de collection, je passe les détails, mais un détective a l'idée de faire analyser l'encre.
Oui, et en analysant l'encre, on s'aperçoit qu'en fait, dans l'encre, il y a du sang et de l'ADN de la petite fille. Et la romancière se met en tête de penser que c'est son éditrice qui a enlevé sa fille pour lui faire écrire un roman sur la souffrance et sur la douleur.
Alors ce qui est vraiment qui est saisissant, c'est que vous baladez le lecteur et en même temps vous le prévenez, le lecteur, que vous le baladez parce que vous donnez les clés. Exemple, vous écrivez ceci. Il existe un principe dramaturgique dans la fiction connu sous le nom de fusil de Tchekhov. Si, dans le premier acte, vous dites qu'il y a un fusil accroché au mur, prévient le dramaturge russe, alors il faut absolument qu'un coup de feu soit tiré avec au second ou au troisième acte. Et donc en fait, on ne sait pas où on est, où on va. On croit se diriger vers une enquête policière, sauf que la romancière découvre qu'elle est manipulée.
Oui, alors c'est quelque chose qui m'est venu, ça, parce que quand je rencontre des lecteurs, les questions qui reviennent le plus souvent, c'est « mais d'où trouvez-vous vos idées ? Quels sont les trucs pour écrire un roman ? Est-ce que vous avez des techniques ?» En fait, ils veulent ouvrir la boîte noire de la création de l'écriture. Et là, j'ai décidé d'écrire un roman, une fiction, une histoire policière, en distillant justement dans l'enquête des petits trucs de romancier.
Ouais. Et alors, page 88, vous dressez une petite liste des manipulateurs. Ça peut être un marionnettiste, un ennemi, un fils de pute, un romancier. Vous mettez ces quatre-là dans la même catégorie ?
Parce que en fait, au début de l'acte d'écrire, il y a toujours quand même cette envie de vouloir maîtriser, de vouloir contrôler. Je trouve que nos vies sont chaotiques et finalement, le seul moment où je me sens finalement pleinement en capacité de maîtriser ma vie, c'est justement dans la vie imaginaire où je suis le démiurge un peu. Ouais. C'est, Nabokov disait mes personnages sont des galériens. Mmh. Et donc je les fais travailler à ma guise. Et le cœur du roman, là, c'est les relations entre un romancier et sa créature, et ce moment finalement le plus intéressant dans l'écriture où vos personnages se mettent à avoir envie de faire des choses auxquelles vous les prédestiniez pas forcément.
Et de les rencontrer ?
Ben oui, parce que quand vous écrivez, disons pendant les 2 mois où vraiment le livre devient partie intégrante de votre vie, vous passez énormément plus de temps avec vos personnages qu'avec votre femme, vos amis ou vos enfants. Et même quand vous allez faire vos courses ou quand vous dînez avec votre famille, en fait, vous faites semblant et vous continuez à penser à votre histoire et à vos personnages.
Une phrase vertigineuse, page 137. Je vais finir de façon pathétique avec deux balles dans la peau tirées par un personnage sorti de mon imagination. Et alors, juste une question, vous décrivez un mariage qui tourne mal et pour obtenir le divorce, l'épouse d'un écrivain, je ne raconte pas l'écrivain, c'est ton nom, mais l'épouse d'un écrivain fait quelque chose d'assez terrible. Elle s'envoie elle-même des SMS d'insultes à partir du portable de son mari, qu'elle efface ensuite, évidemment, sur le portable de son mari, mais comme ça, elle monte les SMS à la juge. Ça vous est venu d'où ? C'est un cas que vous connaissez ?
Elle se fait un dossier pendant un an, tous les deux jours. Ouais. Elle s'envoie les pires ordures via le téléphone.
C'est un cas concret ? C'est un cas concret ou
non,
c'est vous
ça. Je ne sais pas du tout d'où ça m'est sorti et d'ailleurs ma femme me dit bien à chaque fois pense à dire dans les interviews que ce n'est pas moi qui qui fait ça ou qui t'inspire de telles idées.
Votre femme m'a retiré la question qui allait suivre. Vous restez avec nous, Guillaume Musso, il y a encore plein de questions à vous poser parce que dans ce roman, il y a un sous-texte, c'est la construction d'un roman et d'un écrivain. On en parle juste après ça.
Guillaume Musso est notre invité pour parler de son nouveau livre La vie est un roman qui sort aujourd'hui. On continue à en parler avec lui dans un instant sur Europe 1.
9h-11h, Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel. La vie est un roman, c'est le titre du nouveau livre de Guillaume Musso que vous pouvez dévorer dès aujourd'hui. Guillaume Musso qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin dans Culture Média, Philippe.
Un roman publié par Calman Lévy, on l'a dit, il y a un deuxième personnage, le démiurge, c'est un écrivain français, il s'appelle Romain Ozorski. C'est un peu votre double. Vous avez tous les deux 45 ans, vous avez tous les deux débuté le métier à 20 ans en écrivant des romans qui sont tous devenus des best-sellers. Il a un fils de 6 ans, vous avez un fils de 6 ans. C'est ça, vous le faisiez parler à votre place, si j'ai bien compris.
Oui, c'est vrai que c'est un double littéraire qui partage avec moi une même vision de l'écriture et une même méthode de travail. Là où on diffère, c'est qu'il a une vie sentimentale très 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 compliqué et donc heureusement pour moi je n'ai pas ce fardeau là.
C'est pas très compliqué, en fait il s'est fait larguer, sa femme veut divorcer, voilà, bim, c'est dit comme ça.
Alors... en amenant son fils quand même de l'autre côté de l'Atlantique et donc il a la perspective de perdre son fils qui est l'une des seules choses qui le relie à la vie de façon un petit peu positive.
Dans le livre, il y a énormément de réflexions sur la littérature de la part de Ozorski, le personnage, mais aussi de la part de Flora Conway. Elle dit, les lecteurs lisent le livre qu'ils veulent lire, pas celui que vous avez écrit. Vous le pensez aussi ?
Oui, je pense qu'en fait, dans la mesure de nos moyens, nous, les romanciers, on écrit un roman et que les lecteurs lisent le livre en fait qu'ils veulent lire, parce que vous savez, voilà, un même livre, si on le prend à des moments différents de notre vie, on va pas y voir la même chose.
C'est vrai.
À l'intérieur. Et je pense assez, moi, comme Paul Auster, que finalement, un roman, c'est une contribution à part égale entre celui qui l'écrit et celui qui le lit. Et le lecteur fait la moitié du chemin, qu'on le veuille ou non.
Guillaume Musso, on sent que vous avez un rapport complexe au monde de l'édition. Vous parlez de Flora, mais on sent que c'est de vous dont vous parlez. Vous dites, un sentiment ambivalent m'avait frappé chez elle, la détestation du milieu dans lequel elle évoluait et la rage d'en faire partie malgré tout.
Oui, alors ça c'est pas vraiment de moi, mais vous pouvez penser, enfin c'est pas vraiment de moi, c'est pas vraiment ce que je pense moi, mais oui, parfois, bon, moi je me sens pas vraiment comme à appartenir à ce milieu littéraire là, c'est-à-dire que pendant 10 mois, je reste enfermé chez moi avec mes personnages de façon très artisanale. J'accompagne mon fils le matin à l'école et de 9h à 19 ou 20h, j'écris chez moi. J'ai assez peu de contact avec ça.
Oui, mais il y a la perception qu'on a quand on lit un papier sur soi dans les journaux, par exemple.
Oui, bien sûr, mais qui est toujours assez déformée. Donc tout ça passe à travers un prisme. Moi, j'ai toujours l'impression, voilà, d'exercer plutôt une profession artisanale. Et surtout, c'est que je me remets tout le temps dans l'état d'esprit qui était le mien quand j'ai écrit mon premier roman sans même savoir si j'allais être publié ou pas.
Ah mais vous dites que ça fait 20 romans que vous écrivez, vous dites je ne connais toujours pas le mode d'emploi et vous dites chaque fois je me demandais comment j'avais fait les fois précédentes, chaque fois c'était se retrouver pieds nus devant l'Himalaya, vraiment
Oui, il y a quand même des trucs. Vraiment,
ça n'existe pas, le métier d'écrivain?
Mais ça existe, mais malheureusement, il n'obéit pas à des règles. Et c'est pas parce que vous avez écrit 15 livres que vous allez être capable d'en écrire un 16e. Et c'est ça qui est à la fois très excitant et terrifiant. Mais voilà, c'est aussi un moteur. C'est à chaque fois de se dire, voilà, je vais arriver à nouveau à surprendre. Je vais arriver à nouveau à créer
citer ce dialogue, une sorte de débat entre la littérature populaire et la littérature chic. Vous n'aimez pas mes romans? L'autre répond: pas vraiment. Pourquoi? Ils sont prétentieux, poseurs, élitistes, c'est tout. Non, le pire de tout, c'est que vos romans ne sont pas généreux. Qu'est-ce que vous appelez un roman généreux?
Mais un roman généreux, c'est quand même un roman qui est tourné vers le lecteur. Je sais pas, pour moi, en tant que lecteur, un roman réussi, c'est un roman qui rend heureux celui qui le lit, et l'écriture, c'est d'abord, enfin en tout cas pour moi, un acte tourné vers le lecteur, et ma seule méthode, moi, c'est d'écrire le roman que j'aimerais lire en tant que lecteur. Et donc ma récompense, c'est quand je rencontre des lecteurs qui me disent: ah là là, vous nous avez bien eu, on s'est évadé. Je fais aujourd'hui, à 45 ans, je mène la vie que je voulais mener quand j'avais 15 ans. Quand j'avais 15 ans, je voulais devenir un romancier qui soit lu et dont les lecteurs apprécient les histoires.
Eh bien, c'est le cas. Calman Levy a tiré, si je suis bien informé, 400 000 exemplaires de ce roman de Guillaume Musso. Ça s'appelle La vie est un roman. Et juste petit passage, petite nota bene, le magnifique code barre avec New York en filigrane. Ouais. La vie est un roman chez Calman Levy. Merci d'avoir été avec nous.
Merci, Philippe.
Dans un instant, nos indispensables du jour avec Marion Sever qui va sauver, c'est le cas de le dire, nos déjeuners au boulot. Et Nicolas Carreau, avec qui on découvrira le nouveau livre en lice pour le prix Europe 1 GMF. On reste sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et c'est l'heure, Philippe, de nos indispensables du jour. On démarre avec Nicolas Carreau.
Bonjour Nicolas Carreau.
Bonjour Philippe Vandel.
Avec vous, on va évidemment parler de littérature. Et ce matin, vous vouliez nous parler d'un roman sélectionné pour le prix littéraire Europe 1 GMF, comme chaque jour cette semaine.
Exactement, ça s'appelle Le Théâtre des Nuits, signé Karl Aderholt, c'est chez Stock. Sur la couverture, on voit deux soldats, des officiers de la Première Guerre mondiale, a priori, avec une jeune fille. Ils sont tous sourire. Nous sommes en 1916 et Karl Aderholt se base en fait sur un fait historique pour construire ce roman. Pendant la Première Guerre mondiale, effectivement, des comédiens se sont rendus sur le front pour divertir les poilus et donc jouer pour eux. Mais l'armée avait posé quelques conditions. Pas de trop jeunes comédiens, sinon les poilus pourraient se demander pourquoi ils n'ont pas été mobilisés eux aussi.
Ah oui,
pas non plus de pièces patriotiques, du léger, et pas de contact entre les éventuelles comédiennes et les soldats pour des raisons évidentes.
Sauf que dans ce livre, vous nous dites que les règles ne sont pas respectées.
Eh ben non, bien sûr que non, c'est d'abord une histoire d'amour. L'héroïne du roman s'appelle Blanche Beaulieu, elle est comédienne, donc elle fait du boulevard, elle est à Paris, elle essaye de faire carrière, c'est pas facile, mais on lui propose de participer avec Sarah Bernhardt à cette tournée théâtrale un peu particulière, et c'est parti, direction les Vosges.
Et elle va tomber amoureuse dans les Vosges.
Oui, mais vous allez un peu vite. Il faut d'abord apprivoiser cet environnement un peu spécial et c'est très dur. Il y a plusieurs représentations par soir et soudain, il y a une apparition dans ce roman, Sarah Bernhardt, incroyable personnage. Elle est amputée d'une jambe, ça c'est un fait historique aussi, mais elle est quand même sur le front. Sarah Bernhardt a effectivement joué pendant la Première Guerre mondiale et c'est ce qui est très très bien fait dans ce livre. Karl Aderholt est historien, alors c'est un roman historique, une histoire d'amour, donc il y a une partie romancée, mais sur un fond, un décor historique réel, donc on visite cette période de guerre, on apprend beaucoup et c'est peut-être aussi, ou d'abord, un roman sur les femmes, sur la puissance des femmes qui s'émancipent des hommes.
Et ça me rappelle le roman Il neigeait de Patrick Rambaud, ça racontait à la retraite de Russie, et quand les soldats de Napoléon arrivent dans le Kremlin, ils découvrent une troupe de théâtre qui était là, on se demande trop pourquoi. Ça s'appelle Le Théâtre des Nuits, donc chez Stock. Demain, vous nous parlerez du troisième roman sélectionné pour le prix littéraire Europe 1 GMF, on connaîtra le résultat le 24 juin. Juste une petite question, traditionnellement Nicolas, il y a deux rentrées littéraires en septembre et en janvier, et est-ce que là avec le confinement, puis le déconfinement et l'ouverture des librairies, enfin, il va y avoir une troisième rentrée littéraire, genre la rentrée littéraire du printemps-été.
C'est pas vraiment une troisième rentrée littéraire, disons que c'est plutôt un embouteillage. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de romans qui devaient sortir pendant le confinement et qui ont été repoussés à mai-juin. Mmh. D'ailleurs, les dates ont changé pendant le confinement, on savait pas trop bien. Et il y a tous les best-sellers qui devaient sortir donc en mars, qui sortent maintenant.
Guillaume Musso.
Le Joël Dicker, il devait sortir fin mars, il sort demain. Il est excellent d'ailleurs. Ouais. Guillaume Musso, c'est pareil. Patricia Cornwell, elle devait sortir pareil au mois de mars. Finalement, ce sera le 7 juin de mémoire. Voilà. Et donc, ça crée une sorte d'embouteillage. Il y a beaucoup d'offres de best-sellers. Mais ça crée pas une nouvelle rentrée, si vous voulez. C'est juste qu'elle est plus condensée par rapport à d'habitude. D'accord. La bonne nouvelle, c'est que les gens se précipitent dans les librairies. Ça, c'est quand même à noter.
C'est la bonne nouvelle. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que Joël Dicker, si vous en parliez, sera dans Culture Média la semaine prochaine. Merci beaucoup, Nicolas Carreau. À demain.
Et avant de parler cuisine avec Marion Sauveur qui va nous donner des idées de recettes faciles à préparer et à emporter, bien pratiques en ce moment, on écoute le prodige de la new soul pop anglais Yellow Days. C'est son nouveau single que je vous propose, extrait de l'album Day in a Yellow qui sortira le 7 août. Love is everywhere sur Europe 1. Yellow Days, Love is Everywhere sur Europe 1. Europe 1. À suivre, les recettes faciles et pratiques de Marion Sauveur. Nos indispensables du jour continuent juste après ça sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et dans nos indispensables du jour, on va parler cuisine, Philippe.
Bonjour Marion Sauveur.
Bonjour.
Je m'adresse à nos auditeurs, auditrices qui ont repris le chemin du bureau, mais sans cantine, sans restaurant, où vous devez apporter votre panier repas. Et Marion Sauveur, justement pour eux, pour elles, vous nous proposez ce matin des recettes à emporter, faciles à faire, faciles à cuisiner, en moins de 30 minutes.
Et oui, trois recettes, une salade de pâtes, des boulettes de viande et un dessert à la vanille.
Alors, truc de dingue, on va commencer par l'entrée, non ?
Oui, alors. Mais la salade de pâtes, ça peut faire un plat entier, hein, en fonction de la quantité. Ouais. C'est comme vous voulez. La première étape, c'est de commencer donc par la sauce, le pesto rosso, le pesto rouge. Et pour cette sauce, on fait revenir pendant 2 petites minutes dans une poêle chaude des pignons de pin. Mmh. Quand ils sont dorés, on les met dans un mixeur avec les feuilles de basilic, l'ail, le parmesan. Alors là, ça ferait la base de pesto classique italien. Ouais. Et là, on rajoute des tomates séchées et l'huile d'olive, bien sûr. Si les tomates séchées sont d'ailleurs conservées dans l'huile, vous pouvez utiliser cette huile et rajouter un petit peu d'huile d'olive à côté. Et si vous voulez pas mettre trop d'huile d'olive, vous pouvez ajouter une cuillère à soupe d'eau de cuisson des pâtes pour allonger la sauce. Et comme ça, ce sera un peu plus léger.
Ouais, ah, pas mal ça, alors, comme ruse.
Oui, c'est une petite astuce, on sait jamais, ça peut servir. Et une fois que votre sauce est prête, que c'est bien mixé, vous cuisez vos pâtes al dente. Alors, faut pas qu'elles soient trop cuites, sinon elles vont s'écraser dans la salade. Et une fois qu'elles sont cuites, il faut les passer sous l'eau froide pour arrêter tout de suite la cuisson. Et ajouter sans attendre le pesto rosso, puisqu'il faut qu'elles soient bien enrobées de la sauce, sinon elles vont coller entre elles.
Ouais.
Alors, après, pour agrémenter cette petite salade, on ajoute quelques légumes frais, des lamelles de courgettes crues râpées, des pousses de roquettes. Si vous avez des petits pois frais, notamment des petits pois de votre jardin, n'hésitez pas à les manger crus. C'est vraiment délicieux comme ça cru. Ça a un goût vraiment différent. Vous pouvez ajouter aussi 3-4 tomates séchées pour apporter un peu de couleur. Et puis du jambon cru, du fromage, du parmesan par exemple, puisqu'on en a mis déjà dans la sauce.
Ouais.
Et ce qu'il y a de bien avec cette recette, c'est qu'avec la même base, vous pouvez varier les plaisirs, vous changez les légumes et les céréales, mais vous gardez toujours les mêmes quantités surtout.
Je viens de comprendre en voyant les quantités pourquoi on m'a dit que ce n'est pas forcément une entrée, ça peut être un plat. Alors le gars qui a encore faim, s'il veut manger chaud, qu'est-ce que vous lui proposez?
Après cette entrée, ouais. Du coup on passe aux boulettes de viande. Ouais. Et on commence par faire revenir un oignon émincé qu'on ajoute ensuite dans un saladier avec cette fameuse viande hachée. Si vous avez de la chair à saucisse, ça va permettre de donner du moelleux aux boulettes avec une tranche de pain de mie qui sera imbibée dans du lait. On ajoute aussi un œuf et un peu de farine pour lier le tout. Alors moi, je mets des petites herbes aromatiques comme du thym, mais vous pouvez ajouter aussi des épices si ça vous fait plaisir. Vous mélangez bien et vous roulez vos boulettes de la taille d'une noix. Alors pour que ce soit plus facile pour rouler toutes ces boulettes, il suffit d'humidifier vos mains et vous verrez, Philippe, vous y arriverez du premier coup. Et ces boulettes, elles cuisent ensuite au four 25 minutes à 180 degrés. Pas besoin de matière grasse. Et pour vérifier si elles sont cuites, on fait comme avec le gâteau, on plante un couteau
Ah oui.
Qui doit s'enfoncer sans problème dans les boulettes. Et puis, donc ces boulettes, vous les réchauffez au travail si vous avez un micro-ondes à portée de main, mais elles se mangent froides aussi, donc vous pouvez très bien les agrémenter d'une ratatouille qui se mange froide aussi, ce sera parfait.
Ouais, parce que parfois quand on est au bureau et qu'on réchauffe les plats, ceux qui sont à côté, c'est pas des odeurs très agréables si l'autre n'est pas en train de déjeuner.
C'est ça.
En dessert, Marion?
Alors, pas de repas sans dessert, hein, Philippe. Ouais. Attention, ça c'est important, c'est un essentiel. C'est essentiel pour tenir l'équilibre. Je vous propose de réaliser une crème vanille toute simple. C'est un dessert gourmand et vous allez voir, en moins de 10 minutes, vous allez réaliser cette crème. C'est assez incroyable. Alors, vous faites chauffer dans une casserole du sucre, du lait entier et de la crème fraîche, avec aussi les graines d'une gousse de vanille. Tout ça jusqu'à ébullition. Quand ça commence à bouillir, vous baissez un petit peu le feu. Et pendant ce temps-là, vous battez les jaunes d'œufs avec la maïzena et le lait entier. On ajoute ce petit mélange dans la casserole bien chaude. On fouette énergiquement, surtout là, faut pas relâcher le rythme, c'est hyper important. Sinon, ça va faire des grumeaux. Il faut que ça épaississe bien, donc ça va prendre 1 à 2 minutes. C'est très très rapide. Et quand ça épaissit, vous sortez du feu et vous débarrassez cette crème dans des ramequins et vous les mettez au réfrigérateur. Ça, c'est en moins de 10 minutes. Et si vous êtes très gourmand et que vous avez quelques minutes encore, vous faites fondre du chocolat avec un peu de beurre et quand le chocolat est fondu, vous répartissez ce chocolat en fines couches sur ces crèmes froides avant de les remettre au frais et vous verrez, ça fera une couche croquante sur la crème quand vous allez prendre la cuillère, ça va craquer, c'est juste un délice.
Voilà, et puis c'est régime dans tout ce que vous nous proposez parce que
lait entier et crème fraîche.
Non mais il y a lait entier, crème fraîche, parmesan, viande hachée, œuf, farine, jaune d'œuf, chocolat, beurre, on y est. Heureusement que vous avez mis un tout petit peu d'herbe pour se donner bonne conscience, franchement.
Mais il faut, il y a des légumes, attendez, dans ma salade de pâtes.
Vous savez quoi, Marion Sauveur? Céline Dacosta et moi, on vous déteste.
Ah, c'est clair.
Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a la dalle, on a faim.
Mais oui, passez à table.
Toutes ces recettes sont à retrouver évidemment sur europe1.fr. Merci beaucoup Marion Sauveur, à très très vite dans Culture Média.
Et après les recettes de Marion Sauveur, une autre gourmandise, le portrait inattendu d'Hélène Manarino qui est de retour. C'est le dessert de Culture Média. On écoute le portrait de Cadmerade dans un instant sur Europe 1. Restez là.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Et on vous l'avait promis depuis lundi, et notre nouvel horaire traditionnel, c'est-à-dire qu'on est revenu à l'horaire initial depuis septembre, c'est-à-dire 9h, 11h, je le dis si vous prenez l'émission en cours de route, le matin désormais ça commence à 9h, c'est le grand retour des portraits inattendus d'Hélène Manarino. Mmh.
Et aujourd'hui on réécoute avec plaisir celui de Cadmerade.
Caméra, vous écoutez l'émission parfois?
De temps en temps, mais je suis un auditeur d'Europe 1, moi, vous savez. J'écoute beaucoup Mathieu Belliard le matin.
C'est vrai.
Je trouve ça super et je l'ai déjà dit publiquement et je le redis, c'est super.
Et Culture Média, vous écoutez parfois?
Oui, moins, parce que j'aime moins Philippe Vandel.
Mais vous connaissez Hélène Manarino?
Oui, je connais.
Ça
Hélène
tombe
Manarino,
bien, vous savez quoi? Truc de dingue, elle est en face de vous.
Oh, bah dis donc, c'est vous.
Hélène, c'est à vous.
Oh mon Dieu, j'ai mis enfin un visage sur une voix. Oh mon Dieu!
Bonjour Cadmerade.
Oui, bonjour.
Je suis là pour dévoiler ces petits détails, histoires que l'on ne connaît pas forcément de vous. Nous allons entrer dans votre belle vie comme vous aimez la chanter.
Oh, la belle vie. Sans amour, sans soucis, sans problème.
Cette chanson de Sacha Distel que vous pouvez chanter presque à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Ça a même été votre sonnerie de téléphone. Elle a été présente dans la saison 3 de Baron Noir. Votre belle vie, marquée aujourd'hui par votre côté très maniaque. Vous avez souvent une éponge à la main, très ordonnée, ce qui ne vous empêche pas d'oublier votre portable dans le frigo.
Ça c'est vrai, c'est arrivé une fois, oui.
De perdre pas plus tard qu'hier vos clés, vous les avez cherchées pendant 1h30.
C'est vrai, ça.
Montre en main.
Hier,
ouais.
Mais comment vous le savez, ça?
Ah ben... J'étais là, vous ne m'avez pas vu. Ouais. Avant de vous rendre compte.
Elles étaient où?
Sous un sac.
Sous un sac, ouais.
Voilà.
N'importe quoi. Non, j'ai mis 1h30 à chercher. Mais c'est vrai, hein. Ouais. Je devenais fou.
Mais je vous crois.
Ça rend fou de perdre un truc alors qu'on est persuadé.
Non mais déjà, quand vous êtes normal, vous êtes fou. Alors quand vous perdez vos clés, je n'ose même pas imaginer.
C'est même ça qui a balancé cette info. Parce alors, que ça c'est vraiment hier en plus. Hein.
Bah oui, c'est pas fini. Vous avez eu raison d'arrêter votre collection de briquets Zippo. Vous auriez pu tous les perdre.
Oh, merde.
Collection qui est née, car vous en avez acheté 15 d'un coup. Alors,
mais qui balance
ça? Non mais maintenant, la question c'est quel intérêt d'acheter 15 Zippo d'un coup,
franchement. Je sais pas, j'ai dû me faire avoir par encore un truc qui est passé sur Internet.
Votre grand kiff, comme c'est bon de kiffer la vie, ce sont les nouvelles technologies, notamment Alexa, vous savez, ces ampoules connectées, votre grand jeu, entrer chez vous et prononcer. Alexa, allume le séjour.
Oh, et ça marche?
Bah ouais, grave. Mais des fois, je lui parle mal. Mais même si je lui parle mal, elle allume le séjour.
Ouais.
C'est hyper. C'est un kiff, ça.
Une belle vie paisible. Et pour trouver sérénité, sommeil, il y a vos scénarios sur votre table de nuit. Surtout, là, le scénario de votre pièce de théâtre que vous démarrez dans quelques temps.
Ouais.
Mais aussi une belle méthode pour vous endormir. Alors, il y en a deux. Deux méthodes. Déjà, il y a ça.
Attention,
pour rentrer dans l'intimité.
Là. Une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer.
Donc, des documentaires animaliers, vous aimez ça, mais aussi,
on a eu peur, hein.
Pour vous endormir, il y a ça.
Ah oui, putain.
Eh oui, faites entrer l'accusé,
les meurtres. Non, tout en général, pas que faites entrer l'accusé.
Toutes les émissions.
Dès qu'il y a des mecs, voilà, là en ce moment je suis sur I Am A Killer sur Netflix.
Ouais.
Vous l'avez vu ça?
Non.
Non. Alors, afin de perfectionner cette belle vie que vous menez depuis tant d'années, il y a aussi votre côté passionné. Lorsque vous décidez de vous mettre dans des activités, vous y allez à fond. Exemple, le golf. Vous avez tout acheté, panoplie du parfait golfeur, la boxe, c'est pareil. Jusqu'ici, tout va bien, sauf que votre passion s'arrête très vite. Ce qui fait que tous ces uniformes sont stockés dans votre cave. Sans que vous n'ayez véritablement pu les enfiler.
Donc, j'ai fait de la boxe pendant un mois pour préparer les Césars.
Oui,
pour
c'est vrai. Pour préparer, vous mettez à fond.
Voilà. Un mois, dis donc, quelle passion.
Une paire de gants, ça va.
Parlons d'aujourd'hui.
Bah, quand même.
Votre belle vie ne date pas d'aujourd'hui. On va se remettre un petit peu dans votre enfance.
Connais,
je connais évidemment.
Child in Time, Deep Purple, doux enfant dans le temps, comme dans votre chanson préférée, donc nous sommes en train d'écouter. Rien d'étonnant pour un batteur hors pair qui enchaînait les groupes de rock avec ses amis. Une enfance douce, alors pas de bêtises, même si vous étiez considéré comme un cancre, vous étiez très souvent absent, vous révisiez tout au dernier moment, mais vous aviez des bonnes notes, vous savez, ce camarade de classe un peu énervant. Une belle enfance rythmée au grand dîner du dimanche soir, c'était couscous et ou paella, tous les dimanches cuisinés par votre père.
C'est vrai.
D'ailleurs, lors d'un voyage scolaire, hier en Angleterre, vous avez pris un bus de nuit pour rentrer. Vos parents vous attendaient à la sortie du bus. Et la première chose que vous avez prononcée, c'est « Papa, fais-moi un couscous, j'en ai pas mangé en Angleterre, ils ont que des toasts ».
C'est vrai, j'ai mangé que des toasts.
Voilà. Alors aujourd'hui, tous les matins, vous faites quand même, vous aimez le petit English breakfast, comme on dit.
C'est vrai.
Une enfance où vous rendiez les anniversaires encore plus beaux avec vos imitations de Jacques Brel ou d'Harry Cole. Et puis,
qui c'est qui balance tout ça?
Il y a eu, très vite, la grande vie où vous quittiez Ris-Orangis pour rejoindre votre frère Reda qui travaillait dans une boîte de nuit. Les belles nuits parisiennes étaient à vous. Mmh. Alors Cadmerade, la belle vie que vous avez dessinée, elle est marquée évidemment par vos parents, alors surtout votre père que l'on a évoqué, qui assure ne pas être algérien, ce qui vous a valu quelques grandes discussions entre vous et lui, encore maintenant. Mais aussi votre maman, votre héroïne qui a élevé ses 4 enfants dans un contexte pas forcément simple. Elle vous a fait la vie belle et aujourd'hui, vous la continuez aussi pour elle. Réussite, oui, de par votre talent, mais aussi votre prénom, Kadour. Votre papa a été élevé par sa tante qui avait un mari qui portait le nom donc de Kadour. Cette tante a dit à votre papa, si tu veux que ton fils réussisse, il faut l'appeler Kadour.
C'est beau, hein?
Ouais. C'est chose faite.
Et ça a marché quand même.
Bah, je sais pas.
Mais si, un peu quand même. Vous êtes un peu connu dans le quartier.
Parce que je voulais forcément... pas autant.
C'est chose faite. On n'a pas besoin de préciser, oui, que c'est le cas, que votre réussite est bien là. Se souvenir des belles choses, surtout, finalement, il n'y a que ça qui marche. Merci, Cadmerade.
Ah, bravo.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Il faudrait me dire quand même d'où viennent ses sources. Là,
parce que non, le but, c'est
mais
de
mais
pas
attendez,
vous dire.
Mais vous l'écoutez quasiment tous les jours. Vous savez qu'elle a des infos absolument incroyables. Oui,
mais là, ça va loin. Parce que là, ça va loin.
Et attendez, estimez-vous heureux. Elle a donné que 2 moyens de vous endormir.
Les clés hier, oui, parce qu'il y en a d'autres. Ouais. C'est quoi les clés? Qui vous a balancé l'histoire des clés?
On dira rien.
Je peux pas vous dire.
Je suis rentré dans l'appartement, j'ai posé les clés sur le plan de travail. Je les ai cherchées pendant une heure. Mais j'ai simplement oublié de soulever un sac sous lequel étaient les clés.
Mais Cadmerade, comment se fait-il que vous ne trouviez pas vos clés alors que vous êtes dans votre appartement?
Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle est rentrée, elle m'a énervé.
Ouais.
Et j'ai tiré.
Quel doux souvenir. Merci à tous. Merci à Cadmera. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. Nous serons avec Benoît Mazzocco. C'est le papa d'une nouvelle série qui arrive sur France 4. Ça s'appelle Askip. Et puis, il y aura le chanteur Miossec, mais c'est pas Askip. Ils seront là pour de vrai. Salut Céline Dacosta.
Salut Philippe Vandel.
Je vous dis à demain.
Mais avec plaisir. À demain. Dans un instant, Anne Romanoff débarque avec toute sa bande. Leurs invités aujourd'hui, Dadju et Agnès Martin-Lugan sur Europe 1.